Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bienvenue dans l'épisode 24 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Arbogast qui vous parle en direct de Taipei, toujours pour pas changer. Et cet épisode est un peu spécial puisque c'est l'épisode numéro 24, mais surtout parce que c'est l'épisode des 1 an. Ça fait 1 an tout pile que ce podcast existe. J'espère que vous l'appréciez toujours autant pour ceux qui sont là depuis le début. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous partager, alors à la base, l'actualité de la blockchain et de la décentralisation. C'était ça le concept, d'utiliser ça comme prétexte pour vous expliquer un petit peu tout ça et comment ça fonctionne et la portée que ça peut avoir. Et puis, comme je vous l'avais promis il y a quelques semaines maintenant, on va changer un petit peu la formule à partir d'aujourd'hui. C'est que en plus de l'actualité, donc d'une actualité un petit peu plus réduite, on va couvrir aussi à chaque épisode un dossier, donc un sujet en particulier lié à l'écosystème évidemment, dans lequel on va rentrer un petit peu plus en profondeur pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de chaque élément. Pour ça, on vous avait demandé de, on vous avait proposé de répondre à un petit sondage qu'on avait mis sur dossier.proofofcast.com, qui est toujours là d'ailleurs. Et donc, je vais continuer à m'inspirer pour décider des sujets à traiter dans l'ordre de ceux qui vous intéressent le plus. Et le sujet qui a remporté le plus de votes pour ce premier dossier du Proof of Cast, c'est celui du Proof of Stake, donc de l'algorithme de consensus par preuve d'enjeu. Et donc ça va être le sujet du dossier du jour. Et à côté de ça, évidemment, on parlera d'actualité. Ensuite, on reviendra sur notamment Tezos, Kadri SAX, encore, et puis sur, on parlera de Tezos, ensuite on parlera de Kadri SAX, et puis on finira avec un bilan de la conférence Radical Exchange. Je vais m'en sortir dans mon petit programme. Pas de courrier des auditeurs cette semaine, on n'a pas eu de questions ni sur le blog, ni sur les réseaux sociaux, donc je vous rappelle au passage encore une fois que si vous voulez poser des questions, s'il y avait des choses qui sont pas claires dans les épisodes, ou simplement que vous avez envie de parler d'un sujet en particulier hors dossier évidemment, n'hésitez pas à nous poser des questions, soit dans les commentaires du blog sur proofofcast.com, soit sur les réseaux sociaux, sur nos comptes Twitter, Facebook, etc. Et on se fera une joie d'y répondre dans cette rubrique. Cette semaine, pas de plume non plus. J'ai failli oublier. Donc pas d'édito de plume. Voilà, il n'était pas disponible cette semaine, mais on le retrouvera dans les prochains épisodes. Je vais arriver à parler. Donc, première rubrique du jour, donc le dossier du Proof of Cast. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le premier sujet qui a remporté vos suffrages, c'est celui de la preuve d'enjeu, ou de l'algorithme de consensus par preuve d'enjeu, ce qu'on appelle en anglais le proof of stake. Et donc on va revenir un petit peu plus en détail sur ça, alors même si on en a évidemment déjà parlé à plusieurs reprises à l'occasion des différents épisodes, mais ce dossier, ça va être l'occasion de rentrer un petit peu plus en profondeur, et puis surtout de remettre les choses dans leur contexte. Et pour mettre bien les choses dans leur contexte, puisqu'on parle d'algorithme de consensus, la première notion à clarifier, c'est celle de consensus. Alors, qu'est-ce qu'on entend par consensus, et surtout, pourquoi c'est nécessaire ? Encore une fois, quand on parle de blockchain, on parle avant tout d'un système de collaboration. Et qui dit collaboration, dit nécessité, enfin c'est un peu la base de n'importe quel système de collaboration, c'est de tomber d'accord sur une réalité commune. et aussi de se mettre d'accord sur comment on fait évoluer cette réalité de manière cohérente. Alors, dans un simple système économique, les balances de chaque compte et l'ordre et la nature des transferts entre les comptes, c'est ça qui constitue cette réalité sur laquelle on essaye de s'entendre. Et cette réalité, encore une fois, elle peut pas être ambiguë. C'est-à-dire qu'une chose et son contraire ne peuvent pas être vraies en même temps, sinon la collaboration n'est simplement pas possible, parce que les participants perdent confiance dans le système et la valeur s'effondre. Et dans une blockchain, la réalité sur laquelle on veut tomber d'accord, elle est représentée sous la forme d'un gigantesque registre ordonné de transactions. Et de ces transactions, on peut facilement déduire le statut de chaque compte à chaque instant. C'est très générique ce que je dis là. Évidemment, ça va pas être la même chose pour des blockchains purement financières, comme Bitcoin, ou pour des blockchains à smart contract, comme Ethereum, par exemple. La nature des transactions va varier légèrement, le statut, l'état des différents comptes va pas être considéré de la même manière, mais la logique reste globalement la même. Donc, encore une fois, la nécessité d'obtenir un consensus, c'est pour se mettre d'accord sur l'état exact de cette réalité et comment on la fait évoluer. Alors pourquoi obtenir un consensus par un algorithme? Pourquoi on a besoin d'un algorithme de consensus? Alors évidemment, la façon la plus simple pour obtenir ce genre de consensus, c'est de désigner des arbitres, généralement des arbitres humains ou institutionnels, qui prennent les décisions pour un sous-groupe donné. Et éventuellement d'avoir plusieurs couches d'arbitres qui se mettent d'accord entre eux, avec d'autres arbitres au-dessus d'eux, etc., etc. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un consensus décentralisé. On a un consensus centralisé, justement. Par exemple, dans un système bancaire classique, les arbitres centralisés, ce sont les banques, les agences de compensation, les banques centrales, etc., etc. Maintenant, évidemment, il y a plusieurs problèmes avec ce genre de consensus, qu'on va dire institutionnel. C'est d'abord que ces institutions sont fragiles, ou alors doivent dépenser beaucoup d'argent pour ne pas l'être trop. On a vu le syndrome du too big to fail, ou les effets dominos quand quelques banques ont fait faillite en 2008. On voit encore ce que ça donne quand un gouvernement fait faillite, d'une certaine manière, un gouvernement centralisé comme au Venezuela, par exemple. Donc voilà, il y a une certaine fragilité, parce que, encore une fois, il y a une centralisation aussi des risques. Deuxième problème, ces institutions accumulent énormément de pouvoir qu'il est très tentant d'utiliser à mauvais escient et facile à corrompre puisque concentré justement. Troisième souci, pour assurer leur rôle d'arbitre, ces institutions sont contraintes de contrôler l'accès à leurs services et donc, par voie de fait, de refuser beaucoup de personnes qui se retrouvent donc exclues du système pour des raisons, plus ou moins légitimes. Et donc ça peut éventuellement poser aussi des problèmes de censure. Bref, c'est des soucis qui sont quand même assez importants, et c'est vraiment de ces constats-là qu'est née toute la recherche autour des algorithmes de consensus, c'est-à-dire des systèmes informatiques capables d'automatiser les décisions autour de la détermination d'une réalité commune entre les participants d'un système de collaboration. Et alors, tant que faire se peut, on a voulu rendre ces algorithmes décentralisés pour qu'ils soient justement résistants à la censure, à la corruption et tolérants aux fautes, ce qui était un petit peu les principaux problèmes que j'ai cités juste avant. Alors, maintenant qu'on a clarifié pourquoi on a besoin d'un algorithme pour établir un consensus et pourquoi on a besoin d'un consensus, quelles sont les propriétés souhaitables dans un bon algorithme de consensus, tout en gardant évidemment ses objectifs de base, ce fondement de décentralisation. Alors, en plus d'être décentralisé, on veut un algorithme qui soit déterministe, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir prouver mathématiquement qu'il tendra toujours vers un consensus final, impossible à remettre en question après coup. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur une réalité, faut s'y tenir, tant qu'à faire, c'est l'objectif. Il faut aussi que cet algorithme soit juste, c'est-à-dire qu'il doit permettre à tous les participants de pouvoir participer au consensus de manière équitable, en répartissant au maximum le pouvoir de décision. Ensuite, il doit être sécurisé, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir prouver qu'il n'est pas vraiment, c'est pas vraiment qu'il soit impossible, mais en tout cas qu'il soit totalement illogique de vouloir pervertir le consensus en y modifiant les informations de manière unilatérale, et ce alors même que les participants au consensus ont tous des intérêts potentiellement divergents. C'est généralement le concept qu'il y a derrière cette notion de tolérance aux fautes byzantines, Byzantine fault tolerant, bref, voilà. Et en plus, de tout ça, il faut qu'il reste quand même assez rapide et relativement économe, c'est-à-dire que l'exécution de l'algorithme doit coûter le moins cher possible en puissance de calcul et permettre un débit d'interaction ou de transaction maximal. Donc ça, c'est un petit peu la base. Évidemment, il y a d'autres propriétés beaucoup plus techniques, beaucoup plus détaillées, dans lesquelles je ne vais pas rentrer ici, mais c'est la base de ce qu'on cherche à obtenir dans un algorithme de consensus. Alors, dans le contexte d'une blockchain, un algorithme de consensus, il fait quoi exactement? Alors, dans le cas d'une blockchain, à chaque instant, les différents participants sont susceptibles de vouloir ajouter des transactions au grand registre partagé qui constitue la structure donnée de la blockchain. Et l'algorithme de consensus, c'est d'une certaine manière l'ensemble des règles qui déterminent si une transaction ou un ensemble de transactions devrait être accepté comme valide par l'ensemble des participants du réseau ou pas. Et donc indirectement, ça définit aussi comment on construit ces transactions ou ensemble de transactions pour qu'ils soient valides. Alors, il existe évidemment plusieurs familles d'algorithmes de consensus, et pour chaque famille, il existe même plusieurs variantes possibles, aussi bien dans leur logique spécifique que dans leurs paramètres. La famille d'algorithmes de consensus la plus connue, puisque la première qui a été mise au jour de manière vraiment décentralisée, c'est les algorithmes par preuve de travail. Encore une fois, c'est toute une famille, il y a plusieurs variantes, etc. Mais c'est important de parler de la preuve de travail à partir de la... pour en déduire la preuve d'enjeu, puisque vous allez voir que ça se positionne un peu l'un par rapport à l'autre. Donc, la première famille d'algorithmes de consensus décentralisés qui a été découverte, ce sont les algorithmes de type preuve de travail. Le principe de base, c'est de regrouper les transactions par lot appelés blocs. Jusque-là, on s'y retrouve, blockchain, chaîne de blocs. Les blocs, c'est des gros paquets de transactions. Et à intervalles réguliers, d'organiser une espèce de compétition à laquelle n'importe quelle machine ou groupe de machines peut participer. Là, on retrouve l'objectif d'équité, de justice, pour que tout le monde ait une chance de participer à l'élaboration de la blockchain. Le gagnant de cette compétition régulière est désigné de manière non ambiguë, irréfutable et automatique. Encore une fois, c'est un algorithme qui s'occupe de tout ça et il ne peut pas y avoir d'arbitre, sinon on recentralise. Donc c'est vraiment un élément important. Et le gagnant de cette compétition régulière, encore une fois, remporte le droit de décider quel bloc de transaction est ajouté à la suite du registre existant. Évidemment, chaque bloc de transaction qui est produit de cette façon doit être distribué à tout le réseau. Et chaque nœud qui reçoit un nouveau bloc doit le vérifier, le confronter aux règles de l'algorithme de consensus pour vérifier qu'elles sont respectées, faute de quoi le bloc ne peut pas être accepté. Alors, comment on s'assure maintenant que ceux qui produisent les blocs ne tentent pas leur chance avec n'importe quel bloc, éventuellement avec des données non valides? Eh bien, tout simplement en exigeant des participants à la compétition qui mettent un petit peu, qui mettent un enjeu sur la table. Vous allez voir pourquoi j'utilise cette terminologie, mais en gros, pour qu'ils investissent du temps et de l'argent dans cette compétition. Si ça leur coûtait rien de participer, bah forcément, ils auraient aucun intérêt à chercher forcément à produire un bloc valide. Ils produiraient n'importe quel bloc, puis s'il est accepté, tant mieux, s'il n'est pas accepté, tant pis. Et alors, en l'occurrence, dans le cas de la preuve de travail, on leur promet, quand ils participent à cette compétition, on leur promet une récompense financière qui surcompensera l'investissement qu'ils ont mis, à la seule condition que le bloc de transaction obtienne un consensus sur sa validité, c'est-à-dire que tous les autres participants du réseau jugent le bloc valide. Comme ça, si jamais un participant produit un bloc invalide, non seulement il ne touchera pas la récompense, mais du coup, il aura perdu tout son investissement. Donc toute l'énergie, tout l'argent qu'il aura mis dans le calcul, dans la participation à la compétition, eh ben, passera à la trappe et sera perdu. Autrement dit, un tel algorithme, ça s'appuie sur la théorie des jeux. Encore une fois, c'est quelque chose que vous reverrez très souvent quand on parle de blockchain, qui veut qu'un joueur informé joue pour son propre intérêt logique, qui est de gagner le plus d'argent possible et d'en perdre le moins possible. Voilà, ça c'est la base. Et tant que tout le monde poursuit ce même objectif, le système continue à fonctionner. Et alors mathématiquement, la finalité de la preuve de travail repose sur la démontra- la mo- la démontrabilité de la convergence des données vers une version stable, en sachant que calculer un nouveau bloc est compliqué, nécessite beaucoup plus de ressources que de vérifier la validité de ce bloc. Et on appelle ce processus de participation à cette compétition le minage, puisque en fait la récompense financière attribuée au gagnant pour compenser son investissement produit une nouvelle quantité de monnaie. Et c'est même la seule manière par laquelle on produit de la monnaie dans un algorithme de type preuve de travail comme celui-là. Donc, d'une certaine manière, un algorithme de travail revient essentiellement à dépenser de l'électricité dans du matériel qui travaille pour produire de la monnaie, et c'est pour ça qu'on appelle ça du minage, et que les participants à cette compétition sont appelés les mineurs. Alors, il y a différentes variantes de preuves de travail qui peuvent varier par la durée de l'intervalle entre deux compétitions, par la quantité de monnaie attribuée aux mineurs de chaque bloc, par le type de puzzle mathématique que doivent résoudre les participants à la compétition pour prouver qu'ils ont investi de l'énergie, etc. etc. Maintenant, évidemment, tout n'est pas rose. La raison pour laquelle je vous ai parlé un petit peu plus en détail aussi de la preuve de travail, c'est que y a un certain nombre de problèmes liés à la preuve de travail. D'abord, le débit est limité par la puissance de calcul du nœud le moins puissant du réseau. Donc c'est pas quelque chose sur lequel on se dit oh, on va mettre que des ordinateurs super puissants, ça va augmenter la puissance générale. Non, chaque mineur a une puissance différente et d'une certaine manière on a un goulot d'étranglement au niveau de la puissance du mineur le plus faible. Ensuite, on a une consommation énergétique qui est relativement importante en regard de ce qu'elle produit, puisque tous les mineurs dépensent de l'argent, mais seulement un repart avec la prime de chaque bloc. Donc tous ceux qui ont participé, mais qui ont perdu la compétition, eh ben ils ont dépensé de l'énergie pour rien. Et on a aussi une relative concentration du pouvoir des mineurs, là où l'énergie est la moins chère et le matériel destiné au minage le plus accessible. Ce qui aussi entraîne un risque, le risque probablement le plus important sur les algorithmes de type preuve de travail, à savoir l'attaque par 51%, c'est-à-dire la possibilité que un certain nombre de mineurs se mettent ensemble pour acquérir plus de la moitié de la puissance de calcul de l'ensemble du réseau, de manière à pouvoir faire ce qu'on appelle un double spending, une double dépense, c'est-à-dire pouvoir introduire, en gros, créer de la monnaie sans passer par la prime de minage, en fait. Ce qui créerait évidemment une crise de confiance majeure et qui casserait un petit peu les garanties et les promesses de l'algorithme. Et c'est justement pour répondre à ces défis que des alternatives à la preuve de travail ont peu à peu été proposées. Encore une fois, la preuve de travail, c'était le premier algorithme, le plus naïf, on va dire, la première implémentation. Mais rapidement, on s'est rendu compte que certaines limites pouvaient donner naissance à d'autres expérimentations, à d'autres formes d'algorithmes de consensus. À partir du moment où on a prouvé qu'on pouvait en trouver au moins un, allons-y, expérimentons et trouvons-en d'autres. Et la preuve d'enjeu, ou proof of stake, fait partie de ces familles alternatives. Il y en a d'autres, dans lesquelles on aura peut-être l'occasion d'évoquer dans de prochains épisodes du proof of cast, j'ai du mal. Mais voilà, le proof of stake, c'est le sujet du jour. Alors, d'abord, on va revenir sur le principe de base de la preuve d'enjeu. Dans la preuve d'enjeu, au lieu d'investir de l'énergie et du matériel, les validateurs, ceux qu'on appelait dans la preuve de travail les mineurs, investissent de la crypto-monnaie. Donc cet investissement se fait sous la forme d'un dépôt de caution, d'une certaine manière, dans un compte bloqué pour un temps défini. C'est ça qu'on appelle le stake. C'est une espèce d'enjeu, c'est un pari qu'on met de côté. Et à chaque itération de la compétition, donc on a toujours cette notion de bloc de transaction, on a toujours cette notion de compétition à intervalles réguliers pour déterminer qui aura le droit d'ajouter son bloc au registre. Mais ici, à chaque itération de la compétition qui doit désigner le prochain validateur, un des validateurs qui a mis suffisamment de crypto-monnaie en caution est désigné au hasard pour proposer son bloc. Et alors le choix, encore une fois, comme dans la preuve de travail, est aléatoire, sauf qu'ici, au lieu d'être proportionnel à la puissance de calcul mise à disposition, il est proportionnel, enfin la probabilité qu'un validateur soit choisi est proportionnelle à la quantité de crypto-monnaie qu'ils ont mis en caution. Voire même dans certains cas, à l'ancienneté de cette somme, c'est-à-dire depuis combien de temps elle est bloquée. Si le bloc proposé est validé consensuellement par les nœuds du réseau, le validateur va toucher les frais de transaction de toutes les transactions du bloc. On n'a plus, enfin en général, on n'a plus de prime de validation, puisqu'il n'y a pas d'investissement à compenser. Mais par contre, l'intérêt financier pour le validateur, c'est de toucher les frais de transaction liés à chaque transaction. Ça, on a toujours, comme dans le cas de la preuve de travail d'ailleurs. Et si le bloc est considéré comme invalide, non seulement le validateur ne touche pas ses frais de transaction, mais en plus de ça, on peut lui imposer une pénalité qui sera prélevée sur la caution qu'il a mis de côté. Et ça, c'est vraiment un élément supplémentaire, c'est que on peut non seulement lui faire perdre l'investissement qu'il a mis, mais en plus, on peut le pénaliser de manière modulaire, de manière progressive, en fonction de l'ampleur de la faute, d'une certaine manière. Ça, c'est une flexibilité qu'on n'a pas avec la preuve de travail. Alors, quels sont les bénéfices de cet algorithme à preuve d'enjeu ? Avant évidemment de parler des dangers et des vecteurs d'attaque possibles. D'abord, on n'a plus besoin de dépenser de l'énergie et de mettre en œuvre du matériel pour faire des calculs compliqués qui, d'une certaine manière, ne servent à rien d'autre qu'à sécuriser les transactions. C'est déjà pas mal, mais c'est quand même un investissement considérable. Donc, c'est un algorithme qui sera plus économe en énergie. Il sera aussi, a priori, plus rapide, puisque la puissance de calcul des nœuds du réseau n'est plus un facteur limitant dans le débit du réseau. Le seul facteur qui, allez, on va dire technique, qui intervient, c'est la latence du réseau elle-même. Il est a priori aussi plus décentralisé, puisque la validation est accessible à tout compte qui peut démontrer la possession d'une quantité minimale de crypto-monnaie, indépendamment de facteurs géographiques comme le prix de l'énergie ou l'accessibilité du matériel de minage. Vous allez me dire, oui, mais ceux qui ont le plus de crypto-monnaie, donc ceux qui sont les plus riches déjà, vont concentrer le pouvoir. C'est vrai, mais n'importe qui peut le faire. Et surtout, la quantité de crypto-monnaie à disposition étant limitée, il y a un moment donné où les gens vont pas vouloir être prêts à mettre un prix ahurissant pour faire ce genre de choses. Donc il va y avoir des effets limitants de par les mécaniques de marché, tout simplement. Et alors, dernier avantage, c'est qu'a priori, il est plus sécurisé, notamment en ce qui concerne l'attaque de type 51%, puisque là, le 51%, c'est plus 51% de la puissance de calcul, du matériel, de l'énergie, etc. Mais c'est 51% de toute la crypto-monnaie en circulation. Évidemment, ça va être beaucoup plus difficile d'acquérir plus de la moitié de la crypto-monnaie en circulation que plus de la moitié de la puissance de calcul mise en œuvre. Donc a priori, une attaque de type 51%, elle devient, si ce n'est impossible, en tout cas sérieusement compliquée. Donc ça, c'est pour les bénéfices. Maintenant, évidemment, encore une fois, tout n'est pas rose, et il y a un certain nombre de défis et de challenges qu'un certain nombre de personnes sont en train d'essayer d'adresser via la recherche. Alors, je ne vais pas encore une fois rentrer dans tous les détails, parce que c'est très compliqué, mais d'une certaine manière, on a déjà des problèmes liés à ce qu'on appelle les attaques à longue portée, ou long range attacks, ou LRA, encore dans le jargon. Là, c'est une famille d'attaques qui consiste à acheter la clé privée d'un compte qui a déjà validé un ou plusieurs blocs par le passé, et à utiliser cette caution pour proposer une version alternative du registre à partir de la date à laquelle cette somme était disponible sur ce compte. Alors, c'est un petit peu complexe comme ça, mais en gros, ça veut dire que là où dans la preuve de travail, on peut prouver mathématiquement que la finalité, qu'il y a une certaine convergence, c'est-à-dire qu'on a une finalité au-delà de laquelle on peut pas revenir en arrière, on peut pas modifier le passé. Avec la preuve d'enjeu, il devient possible, dans certaines mesures et dans certaines conditions, de modifier une certaine partie du passé. Donc, il y a des risques autour de ça, il y a des contre-mesures possibles, mais pour l'instant, c'est difficile de garantir, de prouver la finalité objective des transactions, comme peut le faire justement la preuve de travail, à cause de ces long-range attacks. Une autre famille d'attaques, c'est ce qu'on appelle les sour milk attacks. Alors, traduction littérale, c'est lait aigre, mais bon, voilà. En gros, vous buvez du lait, c'est un goût bizarre. Voilà, c'est un peu ça le truc. Là, c'est une attaque qui consiste à brouiller les pistes en répandant à la fois des blocs valides et invalides en même temps, ce qui, d'une certaine manière, complique la tâche des nœuds pour discerner les blocs valides des blocs invalides, justement. Là encore, c'est assez complexe comment ça peut être mis en œuvre, mais c'est un risque assez important. Et alors, plus récemment, il y a d'autres types d'attaques qui ont été révélées, qui ont été analysées, comme ce qu'on appelle les fake stake attacks, ou encore le stake grinding. Je vais même pas rentrer dans les détails de ça parce que ça devient très compliqué. En tout cas, d'une manière générale, ce qui se passe avec la preuve d'enjeu, c'est que la structure des incentives est beaucoup plus complexe, beaucoup plus sophistiquée, et donc beaucoup plus difficile aussi à anticiper et à suivre que dans une preuve de travail. Donc on arrive à certains bénéfices, mais en même temps on a des risques plus importants. Et d'une manière générale, ce qui est nouveau avec la preuve d'enjeu, c'est que les mécanismes d'incentive sont complètement bouleversés et sont pas alignés de la même manière. Certains diraient même qu'ils sont beaucoup plus difficiles à aligner entre les différents types d'acteurs que pour la preuve de travail. Donc, pour la faire courte, le problème avec la preuve d'enjeu, c'est que tout en étant plus scalable et décentralisée que la preuve de travail, en tout cas a priori, elle est aussi moins sécurisée. Et sécuriser notamment dans la finalité et la convergence du consensus. Et on a là aussi, c'est une problématique qu'on a souvent évoquée et qu'on évoquera régulièrement quand on parle d'algorithme de consensus. Il y a ces trois propriétés conflictuelles qu'on essaye de réconcilier, à savoir la sécurité, et notamment la finalité, la décentralisation. On doit rester décentralisé, sinon ça n'a aucun intérêt et on revient aux anciens systèmes. Et la performance, c'est-à-dire la scalabilité. Et donc, c'est très difficile d'obtenir les trois. C'est un peu comme le cap théorème dans les bases de données, etc. Ici, l'équivalent du cap théorème dans les algorithmes de consensus décentralisés, c'est ça. C'est comment réconcilier la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Dans le cas de la preuve d'enjeu, on est un peu plus scalable, on est un peu plus décentralisé, par contre, on est un peu moins sécurisé. Et c'est tout le défi, maintenant, de la recherche en cours. Alors, il existe déjà des blockchains qui implémentent un algorithme par preuve d'enjeu. Je vais citer, par exemple, NXT, Peercoin, Blackcoin, Gridcoin. On a parlé de Tezos, on va en reparler d'ailleurs dans l'actualité de cet épisode. Il y en a d'autres, je ne vais pas les passer tout en détail, mais attention à ne pas confondre le Proof of Stake avec le Delegated Proof of Stake, qui n'a pas grand-chose à voir au final, qui n'a pas exactement les mêmes objectifs, qui ne fait pas les mêmes compromis, et même si le nom semble indiquer qu'ils sont fortement liés, la réalité dans la pratique fait qu'ils sont très différents l'un de l'autre. Donc voilà. Alors, pourquoi c'est particulièrement important et pourquoi on en parle énormément, c'est qu'il y a une blockchain en particulier qui a prévu de passer un algorithme de type Proof of Stake dans son futur proche, et vous l'aurez deviné, il s'agit d'Ethereum. Donc Ethereum, on rappelle, hein, c'est la blockchain, c'est la deuxième blockchain par capitalisation après Bitcoin. Elle a démarré avec un algorithme de consensus de type preuve de travail, puisque c'était les seuls qui étaient au point vraiment en 2014-2015, quand Ethereum a vu le jour, avec, dès le départ, le plan de travailler à la conception d'un algorithme de type preuve d'enjeu et de basculer de l'un à l'autre quand, justement, cet algorithme de proof of stake serait prêt. D'ailleurs, c'est pour préparer cette transition que le mécanisme de bombe de difficulté, dont on a aussi déjà beaucoup parlé, a été introduit dès le départ dans le code d'Ethereum. En gros, c'est un mécanisme qui est conçu pour fortement inciter, si ce n'est forcer, les mineurs et les différents participants du réseau à passer à la preuve d'enjeu, à la proof of stake, quand elle sera mise en œuvre. Parce que s'ils restent sur l'ancien réseau, à moins de faire un hard fork dessus pour annuler la bombe de difficulté, ce qui présente ses propres challenges. S'il reste sur l'ancien réseau, le mécanisme est conçu pour ralentir le réseau artificiellement jusqu'à devenir inutilisable. Aujourd'hui, la bombe de difficulté a déjà été repoussée plusieurs fois. ce qui a d'ailleurs nécessité un hard fork à chaque fois, et tout simplement parce que la mise au point de cet algorithme de preuve d'enjeu dans Ethereum est apparue comme beaucoup plus compliquée que anticipé au départ, et notamment parce que Ethereum a grandi beaucoup plus vite, je pense, que ce qui était anticipé au départ, et donc les enjeux, bon, sans mauvais jeu de mots, mais la pression est beaucoup plus importante sur la transition de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Il y a beaucoup plus d'intérêt dans le truc, et donc c'est beaucoup plus compliqué à prévoir, à anticiper, et surtout on peut pas se louper. Il faut vraiment que ce soit bon du premier coup. Alors, le nom de code du projet Proof of Stake sur Ethereum, c'est Casper. Vous avez certainement entendu déjà ce nom-là, et on en reparlera à de multiples occasions, je pense, dans les épisodes à venir. Et pour l'instant, sa finalisation et sa mise en œuvre sont prévues à l'échelle de 1 à 2 ans. Peut-être même un peu plus. Mais pour l'instant, c'est plutôt cet ordre-là. Même si, encore une fois, il n'y a aucune prévision stricte, puisque ça a déjà été repoussé plusieurs fois et que donc on est sûr de rien. En tout cas, si cette mise en œuvre a bien lieu comme prévu, et ensuite fonctionne évidemment, ce sera la plus grosse implémentation d'une preuve d'enjeu. Hein. Je vous ai parlé de tous les autres concurrents, les autres blockchains qui utilisent de la preuve d'enjeu déjà. Pour certaines qui ont même démarré dès le départ avec un algorithme de preuve d'enjeu, aucun à l'échelle, en termes de nombre d'utilisateurs, de nombre de transactions, etc., aucun à la même échelle qu'Ethereum. Donc, c'est vraiment le gros défi maintenant, c'est d'appliquer ça sur un réseau à très grande échelle. Donc voilà, je pense avoir couvert le sujet de la preuve d'enjeu relativement en détail, tout en restant dans un délai raisonnable. Je vous mets en lien sur le blog post certains des articles et certaines des sources que j'ai utilisées pour rechercher ce sujet un petit peu plus en détail. Si, encore une fois, vous avez des questions complémentaires par rapport à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires du blog ou encore une fois sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook, et on se fera un plaisir dans le courrier des auditeurs du prochain épisode de faire un petit complément et de préciser ce qui n'a pas été précisé. Et encore une fois, ce dossier du ProofCast, c'est une nouvelle formule, c'est quelque chose que je teste, donc n'hésitez pas à donner votre feedback par rapport à cette rubrique pour qu'on puisse l'améliorer dans les futurs épisodes. Voilà qui conclut cette rubrique du dossier du Proof of Cast. Maintenant, on va passer à l'actualité. Alors, comme je l'expliquais, hein, dans cette nouvelle formule, il y aura une actualité un petit peu moins fournie. On va couvrir un petit peu moins d'actualité. Cet épisode, j'ai retenu trois sujets. Et le premier est lié à Tezos. Alors, Tezos, pour rappel, c'est une blockchain générique comme Ethereum, qui peut donc exécuter des smart contracts. Disclaimer avant de commencer quand même, j'ai moi-même participé à l'ICO de Tezos, et donc j'ai un petit pécule en Tezis, c'est le nom de la crypto-monnaie de Tezos. Voilà, donc je détiens moi-même quelques Tezis. Je vais rester objectif quand même, mais c'est petit disclaimer de rigueur. Donc comme je le disais, Tezos c'est une blockchain générique comme Ethereum qui peut donc exécuter des smart contracts, mais contrairement à Ethereum, Tezos utilise un algorithme de consensus de type Proof of Stake, preuve d'enjeu, tiens comme on vient d'en parler. Donc voilà, eux ils sont partis dès le départ sur une Proof of Stake. Et surtout, la principale nouveauté introduite par Tezos, c'est ce qu'on appelle un algorithme de consensus auto-amendable. C'est-à-dire qu'il définit des règles de consensus, comme n'importe quel autre consensus, mais en plus, il définit des règles qui permettent de modifier les règles de consensus. C'est assez compliqué comme ça, c'est très élégant mathématiquement, mais l'idée, c'est de permettre de prendre certaines décisions et de les appliquer automatiquement via un processus de vote on-chain. Donc c'est une solution de gouvernance qui est proposée comme une alternative au mécanisme de gouvernance off-chain très chaotique qu'on a pu constater notamment ces dernières années sur Ethereum et sur d'autres blockchains, y compris Bitcoin, Bitcoin Cash et autres. Donc on rappelle aussi que Tezos avait levé plus de 200 millions de dollars dans une ICO en 2017 et ils avaient lancé leur réseau principal en 2018, leur mainnet. Eh bien, en ce début d'année, donc en février, fin février, ils ont lancé leur première campagne de vote pour une proposition incluant deux modifications dans le protocole que je vais vous détailler un petit peu plus loin. Et il se trouve que le 20 mars, ce premier vote s'est conclu, donc après 3 semaines, par un net soutien de la proposition qui s'appelle Athens, donc c'est la proposition de modification, avec 18 181 votes sur un total de 25 855. Donc vous avez eu un peu plus de 18 000 yay et un peu moins de 7 000 nay, en gros. Donc en gros, ça représente 70% en faveur de la modification. Alors, il est quand même important de noter que plus de la moitié de ce qu'on appelle les boulangers, les bakers, c'est les validateurs en gros, hein, dans le jargon de Tezos, donc plus de la moitié des bakers s'étaient abstenus. Donc c'est toujours une possibilité dans les votes sur Tezos, c'est oui, non ou je m'abstiens. Et notamment la fondation Tezos, qui détient les fonds de l'ICO et qui finance du coup le développement du réseau, s'était abstenue. Alors qu'elle détient aussi environ un tiers de la puissance de validation. Mais leur objectif, c'était de ne pas influencer le vote et de donner plus de poids au vote en laissant la communauté décider. Alors maintenant, en quoi consistait la proposition de modification ? Donc, dont le nom de code était Athens. Il y avait deux changements principaux dans cette proposition. D'abord, une augmentation de la limite de complexité de chaque bloc. Dans Tezos comme dans Ethereum, on a un concept de gaz, c'est-à-dire que vous devez payer pour la complexité des transactions que vous ajoutez dans les blocs. Et donc, il y a une limite de gaz sur chaque bloc et la première modification, c'était d'augmenter cette limite, c'est-à-dire d'une certaine manière d'augmenter le nombre maximum d'opérations élémentaires exécutables au sein d'un bloc. Et dans les faits, cette limite agit un peu comme un goulot d'étranglement sur le nombre de transactions par seconde que le réseau est capable de traiter. Et donc en augmentant cette limite, on augmente mécaniquement la vitesse du réseau. Avec la conséquence éventuelle que des blocs trop lourds, donc sont aussi plus longs à calculer, ce qui peut avoir une influence néfaste sur la stabilité de la blockchain, puisque s'ils deviennent trop longs à calculer, ils deviennent plus longs que la latence du réseau, et donc ils mettent trop longtemps à se diffuser sur le réseau, et donc vous avez plus de blocs concurrents qui peuvent être proposés en parallèle, et ça crée tout un problème d'instabilité dans la blockchain. Donc c'est pour ça qu'on peut pas non plus enlever cette limite, elle a un but bien précis, mais on peut la moduler en fonction de ce qu'on veut faire. Et ici, la première modification proposée, c'était d'augmenter cette limite. Deuxième changement, la diminution de la balance minimum nécessaire pour participer à la validation. Comme je vous disais, il y a quand même une condition d'entrée pour participer à la validation dans une preuve d'enjeu. Il faut mettre un enjeu minimal. Et jusqu'à maintenant, cet enjeu minimal, ce qu'on appelle dans le jargon, encore une fois, de Tezos, le rôle, était à 10 000 Tezis. Et il va passer à 8000 Tezis. En tout cas, c'était ce qui était dans la proposition, c'est ce qui est dans la proposition qui a été votée. En d'autres termes, l'objectif, c'est une ouverture à plus de validateurs individuels et donc une décentralisation plus grande, en tout cas en théorie. En gros, il s'agit de modifications de paramètres, donc ces deux modifications-là qui ont été proposées, c'est des modifications de paramètres, pas vraiment de règles logiques de l'algorithme, on ne change rien à ce niveau-là, on module certains éléments paramétriques. Mais ces changements sont vus vraiment comme des tests pour justement cet algorithme de gouvernance on-chain. Donc ils étaient nécessaires, mais on les introduit de manière très prudente pour voilà, tester une première fois cette modification de l'algorithme par lui-même. Alors, depuis que le vote a été clôturé le 20 mars dernier, donc, les validateurs ou bakers sont rentrés maintenant dans une période d'environ 3 semaines qu'on appelle une période d'exploration. Donc, cet algorithme d'auto-amendement, il se fait en 4 phases. La première phase, c'était le vote initial pour la proposition, pour ou contre la proposition. Maintenant que la proposition a été acceptée par... comme je disais, 70% des validateurs. Maintenant, la prochaine étape, c'est une étape d'exploration dans laquelle on va décider de est-ce qu'on la passe en test ou pas. Donc le but, c'est de décider sur cette phase de test. Le deuxième vote va nécessiter cette fois-ci une majorité, ce qu'on appelle une super majorité, c'est-à-dire une majorité de 80% avec un quorum de 80%. Donc ce coup-ci, il pourra pas y avoir plus de la moitié du réseau qui s'abstient. Si c'est le cas, la proposition sera réinitialisée, c'est-à-dire qu'on reviendra à l'état initial. Si ce deuxième vote passe, alors un réseau de tests temporaire sera créé à partir du réseau existant pour y tester les modifications, vérifier que ça casse pas tout, que ça fait pas exploser, je sais pas, l'espace de stockage, etc., etc. Cette phase 3 durera encore une fois 3 semaines, après quoi un ultime vote sera soumis à la communauté pour décider de l'activation ou non, de l'activation finale de la proposition et donc de la promotion ou non du réseau de test comme réseau principal. Donc on a vraiment ces 4 phases d'environ, c'est 22 jours je crois en fait. Donc le processus dans l'ensemble est conçu pour durer environ 3 mois, donc ce qui nous amènerait à une éventuelle conclusion pour la proposition Athens aux environs de la fin mai. Alors petite note intéressante, la proposition inclut également une facture de 100 thesis, ce qui correspond à peu près à 70 €, hein, au prix d'aujourd'hui, pour démontrer la faisabilité de financer le développement de ce genre de proposition de manière décentralisée à partir de monnaies fraîchement créées. Donc cette facture serait payée en nouveaux thesis. Donc en plus des thesis qui sont créées à chaque bloc, par le processus normal de validation, on créerait une quantité exceptionnelle pour financer cette proposition. Alors évidemment, ici c'est symbolique, hein, c'est sans thésis, c'est pas grand chose, mais à l'avenir, on suppose qu'on pourrait utiliser ce mécanisme de manière plus conséquente pour financer les efforts liés à ce genre de propositions qui sont évidemment pas anodins. À noter que parmi les autres changements qui pourraient être soumis au vote dans de prochaines propositions, donc c'est pas dans Athens, mais c'est dans les prochaines à venir, on parle notamment de l'intégration des ZK Snarks, c'est-à-dire le mécanisme de protection de données qui existe déjà dans Zcash et qui est en cours d'intégration aussi dans Ethereum. Donc ça fait partie des modifications qui pourraient être intégrées dans de prochains votes. Mais pour l'instant, on en est à ce premier test. Autre élément intéressant que j'ai noté en lisant un petit peu toutes les actualités autour de ça, c'est que même si le vote final a lieu sur la blockchain, ce qui est déjà un progrès certain en termes de signal, hein, c'est un problème qui revient très souvent dans des blockchains avec une gouvernance off-chain comme Ethereum, c'est qu'il y a quand même beaucoup de discussions et de débats qui ont encore lieu off-chain. Tout ne se fait pas on-chain. Medium, Telegram, Twitter, Reddit, tout ça, c'est des canaux, des médias sur lesquels vous avez énormément de discussions qui ont lieu et qui servent évidemment à influencer, à convaincre, à mettre les gens d'accord sur les bonnes décisions à prendre. Et ensuite, le vote lui-même a lieu sur la chaîne. Mais le reste continue à se produire off-chain. En tout cas, c'est une expérience intéressante à suivre pour l'écosystème dans son ensemble. Encore une fois, il y a toujours des sceptiques. Du côté Ethereum, Vitalik notamment, ni Vitalik ni Vlad d'ailleurs, ne sont fondamentalement convaincus par l'intérêt de cette gouvernance on-chain. Ils ont un peu peur que justement on supprime l'élément humain, même si bon, encore une fois, les éléments de cette expérience montrent qu'il y a toujours des discussions humaines, c'est uniquement le vote lui-même qui est directement sur la chaîne. Bref, va falloir suivre pour voir si dans la pratique ça fonctionne et ça peut être applicable dans d'autres contextes. Voilà pour la news sur Tezos et qu'on continuera évidemment à suivre dans les prochains épisodes. Parlons maintenant, une fois n'est pas coutume, de Quadriga CX, la saga, le retour de l'envahisseur. On a beaucoup parlé de Quadriga CX dans les épisodes précédents. Pour rappel, il s'agit de cette place de marché d'échange canadienne qui a demandé à être mise en procédure de protection judiciaire après le décès de son fondateur, qui était soi-disant le seul détenteur des clés privées permettant d'accéder aux wallets à froid, qui devait contenir à peu près de l'ordre de 130 millions de dollars, appartenant à ses clients. En l'espèce, l'affaire était intéressante dans ce qu'elle démontrait les risques liés aux wallets de crypto-monnaies, la nécessité de réguler peut-être plus étroitement encore les places de marché, ainsi que les risques que prennent les clients qui confient la garde de leur crypto-monnaie à une plateforme tierce. Maintenant, ce qui se passe, c'est que depuis le début de cette affaire, plusieurs éléments ont un peu dégonflé les affirmations du début, notamment Ernst & Young, donc le cabinet de conseil qui a été nommé par la justice canadienne pour prendre la tutelle de la société et tenter de retrouver les fonds. Ils ont fourni les adresses de ces fameux wallets de stockage à froid qui se sont avérés finalement complètement vides. Et depuis plusieurs mois en plus, depuis le mois d'avril, alors que le fondateur de la société est décédé a priori en décembre. Donc, pour l'instant, on cherche toujours où sont ces 130 millions. Certains disent qu'ils n'ont pas révélé tous les wallets à froid, uniquement ceux qui avaient été plus ou moins découverts par la communauté. Mais bon, toujours est-il qu'ils pourraient les révéler. Pour l'instant, on n'a aucune info sur ces wallets et le peu qu'on a, ils sont vides. On a aussi des mouvements suspicieux qui ont été constatés sur l'un de ces wallets une semaine à peine avant le décès du fondateur. Donc la plupart étaient vides depuis avril, il y en a quand même sur un où il y a encore des fonds qui sont sortis une semaine avant le décès. En plus de ça, les employés de Quadriga ont encore perdu un peu plus de 100 000 dollars en tentant soi-disant de mettre à l'abri des fonds qu'ils avaient retrouvés et ils les ont envoyés vers un des wallets à froid dont ils n'avaient plus la clé privée. Ce qui démontre, encore une fois, une incompétence notoire. Bref, pour moi, ça ressemble de moins en moins à un problème de crypto-monnaie et de blockchain et de plus en plus à un cas de société gérée par-dessus l'épaule par un fondateur foncièrement malhonnête qui s'est un peu barré avec la caisse. Pour appuyer d'ailleurs cette sensation, je vous invite d'ailleurs à lire l'article de CoinDesk que je vous ai mis dans les liens du blog post, dans lequel un des anciens avocats de la société qui a représenté la société en 2015, à l'époque où ils étaient vraiment très régulés, où ils faisaient les choses dans l'ordre, etc., explique comment ça s'est passé et comment du jour au lendemain quasiment la plupart des avocats ont été virés, la plupart des efforts de régulation ont été abandonnés, et puis en gros ils se sont mis un petit peu dans le, si ce n'est l'illégalité, en tout cas ils se sont dérégulés eux-mêmes pour en arriver aux catastrophes qu'on voit aujourd'hui. Donc encore une fois, ça ressemble de moins en moins à un problème lié aux crypto-monnaies. Donc on va pas en parler plus que ça à l'avenir, hein, sauf rebondissement qui affecte notablement l'écosystème des crypto-monnaies ou conclusion définitive de l'affaire. On va pas en revenir super en détail. Je voulais juste encore vous tenir au courant de quelques éléments nouveaux dans le dossier. D'une part, les cabinets d'avocats qui représentent les clients lésés ont nommé un comité de pilotage constitué de certains de ces clients pour représenter les un peu plus de 100 000 clients potentiels, dont seulement un petit millier se sont fait connaître. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que un des membres de ce comité de pilotage, donc un des clients lésés par Quadriga CX, fait aussi partie des clients lésés par l'affaire Mongox, c'est-à-dire cette autre place de marché qui, en 2015, je crois, avait fait faillite suite, encore une fois, à un cas de disparition mystérieuse de fonds, de vol, etc., etc. Donc, encore un qui avait déjà mis trop de fonds de côté, qui les avait laissés dans une place de marché et qui était victime d'une disparition de fonds et qui visiblement n'avait pas appris de sa leçon puisqu'il a refait la même chose avec Quadriga CX. Je trouve ça assez intéressant quand même. Autre élément, on vous parlait dans un épisode précédent du fait qu'un des cabinets d'avocats qui représentait la société Quadriga CX, en l'occurrence Stuart McKelvey, avait démissionné et on savait pas exactement pourquoi. Il parlait d'un conflit d'intérêts, mais il l'avait pas vraiment explicité. C'est maintenant chose faite. En fait, le problème, c'est qu'il représentait à la fois la société Quadriga CX et la veuve du fondateur, donc Jennifer Robertson, qui s'était retrouvée administratrice de la société un peu malgré elle. Et alors là, encore une fois, la raison pour laquelle j'en parle, et ce qui est intéressant dans cette explication, c'est qu'ils ont décidé de ne plus représenter la société Quadriga CX, mais de continuer à représenter Jennifer Robertson. Un cabinet d'avocats qui donc coûte cher, hein, demande cher à ses clients, qui abandonne une société pour privilégier un client individuel. Je veux pas spéculer, hein, mais quand même, suivez l'argent. C'est-à-dire qu'ils savent que... On sait tous que visiblement la société n'a plus un rond, mais du coup ça veut dire que la veuve elle-même, enfin Jennifer Robertson, ne devrait s'en être pas trop mal tirée pour qu'elle attire, qu'elle pousse un cabinet d'avocats à la préférer à la société. Bref, encore une fois, je vous laisse juge. Je veux juste m'arrêter sur cet avertissement pour le moment. On l'a déjà dit et on le dira encore. Et comme l'a d'ailleurs très bien dit aussi Andreas Antonopoulos dans la vidéo qu'on vous a mis en lien sur le blog, si vous ne détenez pas vos clés, vous ne détenez pas les crypto-monnaies qui sont dessus. C'est aussi simple que ça. Donc tant que vous laissez de l'argent, de la crypto-monnaie sur une plateforme d'échange qui détient vos clés, qui détient la garde de vos clés, et ben d'une certaine manière, vous leur faites confiance aveuglément pour la gestion de cette crypto-monnaie, la sécurisation de ces clés. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez installer des wallets software sur votre laptop ou votre téléphone. Il existe des wallets hardware. Il y a plein de solutions, mais d'une manière générale, dès que vous avez acheté vos crypto-monnaies, sortez-les de la place de marché tout de suite. Voilà, ça c'était le petit avertissement de Papa Seb. Dernière news sur laquelle je voulais revenir, que je trouve particulièrement intéressante, c'est un petit bilan de la conférence Radical Exchange. Alors, c'est quoi Radical Exchange ? Du 22 au 24 mars dernier, c'est tenu à Détroit, donc cette première conférence Radical Exchange. C'est une conférence qui n'est pas liée directement au sujet des blockchains à la base, mais qui est vouée à l'exploration des idées promues et avancées dans le livre Radical Markets de Glenn Weil et Eric Posner, publié en 2018. Pour faire court, ce livre, alors, dont je viens à peine de commencer la lecture et sur lequel je vous ferai probablement un retour quand je l'aurai fini. Mais en gros, ce livre, il explore différentes propositions économiques et sociales pour revoir en profondeur l'organisation de nos sociétés autour des réalités d'aujourd'hui et avec les nouveaux moyens de collaboration dont on dispose. En gros, ça parle d'enchères permanentes, de biens communs, de nouvelles formes de taxation et aussi de décentralisation. Et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que je vais vous parler de ça dans ce podcast sur la décentralisation et les blockchains. C'est parce qu'apparemment, il y a un certain nombre de points communs notables entre les philosophies et les cultures de ces deux communautés. La communauté blockchain d'une part et la communauté Radical Exchange d'autre part. C'est-à-dire la communauté qui s'est créée finalement autour de ce bouquin Radical Markets. Et les cultures de ces deux communautés commencent à créer de plus en plus de synergies. Je vous avais déjà parlé d'une conférence à DEFCON 4, donc la conférence des développeurs Ethereum qui s'est tenue à l'automne dernier, en novembre dernier à Prague. Glenn Weil, donc un des auteurs du bouquin, avait déjà donné une conférence, avait donné un talk à l'occasion de DEFCON. Et cette fois-ci, c'est Vitalik Buterin, Santiago Siri, Eva Bailin de la Fondation Ethereum ou encore Joshua Shane, un des fondateurs du projet Uport, qui sont entre autres intervenus à l'occasion de la conférence Radical Exchange, dans des panels, dans des conférences, etc. Et plusieurs opportunités de fertilisation croisée, si on veut, apparaissent de plus en plus clairement entre les deux communautés. D'abord, la blockchain et notamment la blockchain Ethereum apparaissent comme une plateforme technique idéale pour l'implémentation de certaines expériences théoriques proposées dans le bouquin. Et ce, de par sa décentralisation justement, et aussi de par son extensibilité, c'est-à-dire la possibilité de développer des smart contracts. Par exemple, Simon de la Rouvière, un autre acteur connu de la blockchain Ethereum, puisque ancien développeur chez Consensys et fondateur de la startup musicale Ujo, qui est basée aussi sur Ethereum, a développé une première implémentation du principe de la taxe Harberger, qui est évoqué dans le livre Radical Markets. En gros, le concept, c'est quoi ? Il s'agit d'une œuvre d'art en vente aux enchères permanente avec une taxe de garde de 5% par an reversée à l'artiste et qui est disponible, d'ailleurs, vous pouvez aller voir plus en détail sur thisartworkisalwaysonsale.com. Donc c'est une œuvre d'art, hein. Vous jugerez de l'aspect artistique du truc, mais c'est surtout une expérience de pensée, une expérience sociale d'une certaine manière, puisque encore une fois c'est une enchère permanente, donc il suffit de mettre un montant plus important que le montant qu'a mis le propriétaire actuel pour acquérir l'œuvre. Et ensuite, celui qui a l'œuvre, pendant tout le temps où il la garde, il paye 5% par an, et cette prime, enfin ces intérêts sont reversés à l'artiste. Donc c'est une méthode de financement de la création, d'une certaine manière, complètement nouvelle, et c'est ce concept de taxe Harberger. Autre exemple de mécanisme inspiré du bouquin et en cours d'expérimentation sur Ethereum, c'est Gitcoin qui le met en œuvre. C'est le concept de Capital Constrained Liberal Radicalism, le CLR, pour les intimes. Là aussi, pour la faire courte, l'idée c'est d'allouer des fonds de manière collective sur base d'un vote quadratique. Et alors, le vote quadratique, c'est quoi, me direz-vous ? Eh bien, l'objectif, c'est de voter pour sa décision préférée, tout en indiquant avec quelle intensité on la préfère. Donc c'est pas juste une personne, un vote, c'est plus j'ai d'intérêt à ce qu'une proposition soit choisie, et plus je vais manifester l'intensité de cet intérêt. Et alors je vous passe les détails mathématiques, mais en gros derrière il y a des preuves qui montrent que cette méthode de vote est plus efficace, c'est-à-dire tend vers un vote plus représentatif de la réalité, que les méthodes naïves de type justement une personne un vote telles qu'on les utilise pour l'instant. Encore une fois, je vous résume ici les concepts de manière très rapide, parce que pour être honnête, je les maîtrise que très approximativement, j'ai pas encore lu tout le bouquin, mais c'est pour illustrer ce genre d'idée, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Évidemment, toutes ces idées d'innovation en termes de gouvernance intéressent au premier chef les acteurs de la blockchain comme Ethereum qui se débattent aujourd'hui dans leur processus de prise de décision. Donc, ils voient dans beaucoup de ces idées des solutions potentielles à leurs propres problèmes. Tandis que, de leur côté, les penseurs du radical market voient la blockchain comme une plateforme idéale pour sortir du domaine théorique d'une certaine manière et rentrer dans le domaine expérimental, c'est-à-dire pouvoir mettre en œuvre, dans un contexte contrôlé, on va dire, certaines des idées, en tout cas, évoquées dans le bouquin. Pour autant, d'un côté comme de l'autre, on note certaines différences importantes. Notamment le fait que le concept d'identité est relativement central dans les travaux des marchés radicaux, alors qu'il est très compliqué à implémenter, on l'a déjà évoqué dans les épisodes précédents, dans une blockchain qui ne prévoit pour l'instant rien nativement pour, d'une certaine manière, formaliser les êtres humains sur la blockchain. Autre élément de divergence, c'est une divergence de valeurs entre, on va dire, les valeurs inspirées des cypherpunks qui sont vraiment obsédés, obnubilés par la vie privée, le secret et la souveraineté des données personnelles, alors que les défenseurs des marchés radicaux partent plutôt du principe que, d'une certaine manière, aucune information qui nous concerne ne nous concerne seule, et que donc la notion de souveraineté, et si ce n'est caduque, en tout cas, nécessite un assouplissement. Pour autant, malgré ces débats, ce qui ressort, c'est surtout qu'à un niveau plus méta, on va dire, il y a une grande communauté d'attitudes et d'approches expérimentales. Dans la blockchain, comme dans les marchés radicaux, on n'a pas peur de revenir aux fondamentaux, ce qu'on appelle en anglais « thinking from first principles », et d'expérimenter de nouvelles façons de faire de manière incrémentale et scientifique en s'appuyant sur des données concrètes. Et surtout de remettre en question ces hypothèses en permanence pour s'adapter à des résultats plutôt que de tenter d'écrire quelque chose dans le marbre et d'avoir peur d'y toucher. Comme quoi, encore une fois, derrière la blockchain et la décentralisation, il y a plus que des technologies, il y a à la fois des outils, des terrains d'expérimentation et du coup des sources d'inspiration potentielles pour une décentralisation à tous les niveaux de la société. Et ça, moi personnellement, ça me fait beaucoup plus envie que le status quo ou le retour en arrière. Donc, à suivre de très près, et encore une fois, pour ceux qui l'ont pas lu et qui veulent le lire en même temps que moi, le bouquin s'appelle « Radical Markets » par Eric Posner et Glenn Weil. Et voilà qui clôture l'actualité de cet épisode, et donc cet épisode lui-même. Comme d'habitude, Je vous invite encore une fois à laisser vos commentaires, vos questions, vos remarques sur le blog post de l'émission sur proofofcast.com ou sur les réseaux sociaux, sur nos pages Proof of Cast, sur Facebook ou sur notre compte Twitter éponyme. Je vous invite aussi à me retrouver pour les plus développeurs d'entre vous sur mon cours Udemy qui vous apprend à développer des smart contracts sur Ethereum, entre autres, hein, une application décentralisée dans son ensemble. Le cours est à 10€. Avec le code Proof of Cast que vous pouvez retrouver en lien dans chaque blog post de l'émission. Et j'en profite pour annoncer que la mise à jour du cours pour couvrir toutes les nouvelles technologies que sont Truffle 5, Ganache 2 et toutes ces belles choses est en cours de préparation, j'ai bien avancé, on va arriver dans les quelques semaines à venir à publier une mise à jour normalement. Donc évidemment, pour ceux qui auront déjà acheté le cours, cette mise à jour sera gratuite. Vous pouvez aussi me retrouver dans Les Technos, sur lestechnos.be, l'autre podcast auquel je participe, podcast sur la tech, toutes les semaines, j'y participe pas toutes les semaines, mais en tout cas le podcast est hebdomadaire, et je vous rappelle aussi maintenant, comme ça va devenir la tradition, que vous pouvez aussi soutenir l'émission financièrement avec des petits dons en Ether que vous pouvez envoyer à l'adresse proofofcast.eth. Prochain épisode du Proof of Cast, ce sera l'épisode 25, qui sera diffusé le 13 avril, et je vous retrouverai donc au prochain épisode, je l'espère, avec mon acolyte Plume. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici, et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.